Giulia Turati, bonjour.
Bonjour à tous.
Charlotte Charbonnel, bonjour.
Bonjour.
Alors, on est à l'inauguration de la toute dernière exposition de la Halle, le lieu d'art contemporain de Pont-en-Royan, une exposition de l'artiste Charlotte Charbonnel et qui a été, comme d'habitude, organisée par la curatrice du lieu d'art, Giulia Turati, qui va peut-être nous en dire quelques mots pour commencer.
Oui, en fait, c'est une exposition qui a pris forme littéralement ici, dans l'Albercorps. Une invitation que j'ai faite à Charlotte il y a plusieurs mois déjà, à travailler dans cette nature très particulière quand même, qui est celle du massif du Vercors, donc avec extrêmement de matières minérales, mais en présence des lots. Particulièrement à Pont, qui est assez forte aussi. Donc, sachant que le travail de Charlotte tourne vraiment autour, c'est une démarche qui touche beaucoup à des interventions, à la manipulation de l'uranique, elle travaille beaucoup avec la nature et les éléments. Donc, c'était vraiment une occasion que j'attendais de pouvoir l'inviter pour travailler vraiment d'Albercorps. Donc, a été produit pour cette exposition, pour ces salles d'exposition aussi, c'est-à-dire qu'il y a des œuvres qui seront difficilement les mêmes ailleurs. Et il faut aussi remercier beaucoup la grotte des Churanches et les jardins des fontaines pétrifiantes à la Saône, qui nous ont vraiment ouvert leurs portes pour pouvoir puiser dans leur patrimoine naturel très particulier, pouvoir vraiment prendre de la matière pour les créations qu'on peut découvrir aujourd'hui. Donc c'est vraiment cette exposition, c'est vraiment une vision de l'artiste de ces mondes souterrains, ces mondes aquatiques et rocheux du Vercors. Voilà, en tout cas tout proche du Vercors, près des Pont-en-Royan.
L'exposition s'intitule Sonitus Aquae. C'est du latin ?
Oui, c'est du latin. Alors, c'était une belle surprise, en fait, quand on s'est promené avec Giulia. On est tombé par hasard à la Saône. Donc, c'est là où se trouvent les fontaines pétrifiantes. Et on est tombé par hasard sur une fontaine où était écrit, en fait, sur une plaque, ce titre. Et donc, c'est le nom de la Saône, en fait, en latin. Et ça veut dire « l'eau qui murmure ». Et donc voilà, on cherchait un titre en fait pour l'exposition et j'aime bien en général inventer des mots que ça parle en même temps dans le titre, qu'on ait un peu des éléments évocateurs de ce qu'on va voir, tout en ayant un aspect peut-être plus lyrique ou voilà. Et le latin, ça m'arrive d'utiliser le latin dans les titres, donc c'était juste parfait. C'était du sur-mesure.
Alors, comment ça s'est passé, la préparation ? J'ai constaté que très souvent, les artistes arrivent là parce qu'ils sont invités par Giulia et travaillent sur le lieu et travaillent à exprimer les émotions que le lieu leur fait ressentir. Le lieu, c'est le Royan, enfin, c'est autour de Pont-en-Royan. Comment ça s'est passé pour vous ?
Alors, ça s'est passé la première visite, donc suite à l'invitation de Giulia, on s'est rencontrés à Paris. Et puis, je suis très vite, rapidement venue ici à Pont-en-Royan, à la Halle. Donc là, effectivement, ça a été un choc émotionnel tellement c'est très beau, en fait, quand on arrive dans le village. J'ai été tout de suite sous le charme. Et puis, de découvrir la Halle, donc, qui donne sur la Bourne, avec cette dimension complètement troglodyte. Moi, je suis assez sensible, en fait, au lieu d'exposition. Je vais préférer avoir un lieu avec une personnalité plutôt qu'un white cube. Et là, c'est vrai que tout de suite, il y a beaucoup d'éléments qui m'ont parlé. Il y a ce plafond dans cette salle qui est assez présent. Ensuite, on a effectivement les murs qui ont des reliefs. On sent qu'on rentre en fait dans la roche. Donc rapidement, en fait, on a été se promener aussi. Elle m'a fait découvrir une partie du Vercors parce que bon, on n'avait pas non plus un temps indéfini, mais j'ai pu venir quand même pas mal de fois. Et puis Giulia a eu l'intuition de me proposer d'aller voir une grotte, la grotte de Churanches, qui est pas très loin d'ici. J'ai fait pas mal de recherches à la bibliothèque. Moi, j'aime bien référencer le travail. J'aime bien vraiment chercher sur la région, sur les éléments, sur les. Et donc, je suis tombée sur les fontaines pétrifiantes également. Et Giulia donc, nous a permis de nous mettre en contact avec Laurent Garnier, qui s'occupe des deux sites, en fait, et qui nous a vraiment, effectivement, ouvert ses portes pour pouvoir travailler sur les propositions qu'on lui a faites. Donc voilà, ça s'est fait en plusieurs étapes. Et ensuite, il y a eu une résidence à Molly Sabata, qui est donc à Sablon, qui n'est pas très très loin d'ici, qui permettait de travailler, de produire les pièces, moins loin que dans mon atelier à Paris. Et puis mon atelier est plus petit aussi. Donc voilà, ça a permis aussi d'avoir un lieu pas très loin, de qui reste dans l'Isère, mais qui, voilà, qui... On a rapporté en fait différents matériaux, du calcaire. Donc voilà, c'est surtout une exposition autour de l'eau, du travail de l'eau, comment l'eau sculpte, comment l'eau donne des formes, la trace de l'eau. Et comme on est sur un territoire karstique, je me suis beaucoup intéressée à ça, effectivement, comment l'eau creuse, donc aussi bien dans les grottes que dans les fontaines, où on est sur des tuffières, on est sur des formations de cristaux, de calcite. Voilà, donc il y a différentes pièces qui sont en rapport avec ça. Il y a du son également, il y a un travail avec le verre qui a été fait avec un souffleur de verre. Pour la transparence et puis pour le côté cristallin, voilà, qu'on peut retrouver dans des formes de stalagmites, stalactites. Voilà, il y a de la vidéo également, donc ce sont des installations in situ pour la halle, à partir de la halle. Voilà, la première salle, c'est le plafond qui dégouline. Donc on est un peu mangé par l'espace quelque part, le plafond devient presque vivant. Et puis on rentre progressivement comme dans une grotte en fait. Voilà.
Pour arriver jusqu'à la troisième salle, où il y a ces motifs en verre soufflé, donc qui sont extraordinaires, qui évoquent évidemment l'eau qui tombe du plafond de la grotte. Mais c'est vrai qu'on a l'impression, surtout quand on est à Choranche avec le son et lumière, que c'est un vrai ciel, quoi, le plafond de cette grotte. Et donc on part un petit peu des fontaines pétrifiantes pour arriver aux fistuleuses.
Tout à fait, ouais, c'est un petit peu l'idée... C'est bien que vous ayez ressenti ça.
Dans la première salle, on voit plusieurs projections vidéo sur les murs ou sur l'intervalle entre le mur et le plafond, qui a été un petit peu restructuré pour l'occasion. Quelle place a l'image animée et quel type de création c'est ?
Alors là, c'est vraiment de garder le plus de traces possible de ces lieux, donc qui étaient incroyables. C'était une chance de pouvoir y travailler. La vidéo est pas forcément ce que j'exploite le plus dans le travail. C'est plutôt le son et puis le volume. Mais là, c'est vrai qu'on était tellement dans l'idée de garder une trace de l'eau, que ce médium-là était plutôt bien pour venir reproduire aussi la... Le passage, on a une vidéo par exemple où c'est dans un bassin et le niveau de l'eau baisse progressivement. Donc on voit presque la matière de l'eau en fait. Il y avait un peu cette idée de venir au plus proche de la goutte d'eau, de donner une matérialité à l'eau. Et donc ça vient aussi en résonance avec le plafond, qui est donc une matière, une sorte de flocage qui est très présent. Et je voulais aussi rappeler un peu cette matière à travers les vidéos, parce qu'on a des concrétions qui sont assez proches aussi de ce plafond, donc d'un calcaire presque au-dessus de notre tête. Donc j'ai aussi prolongé avec ces sortes de langues, comme si le plafond dégoulinait, comme je disais, quoi. Donc les vidéos viennent à la fois animer en fait ce plafond, presque donner une sorte de vie, et jouer en fait sur l'illusion. C'est un peu des apparitions un peu fantomatique, voilà, d'une goutte qui tombe, qui pourrait être presque réelle en fait, et qui est en condition, qui vient du dessus, comme elle l'est dans la grotte. Voilà, c'est de faire rencontrer aussi différents paysages en fait entre le territoire de la halle, parce que c'est presque un territoire. Enfin, moi, je le vois vraiment comme une grotte. La deuxième salle, on a un faux plancher qui a été posé, donc on a creusé à l'intérieur pour faire apparaître comme des stalagmites en fait. Une réflexion sur le moulage aussi, parce que j'ai fait beaucoup de moulage dans la grotte. Donc on a un côté négatif avec ces concrétions qui sont au sol. Donc voilà, on lève la tête, on la baisse. J'essaie vraiment de travailler sur l'espace de la halle pour le rendre un peu plus vivant.
Et dans la deuxième salle aussi, il y a un travail que j'ai trouvé très beau sur les lumières, comme si la lumière en fait sortait de la roche ou sortait de la pierre, ou si la pierre apportait un éclairage.
Oui, c'est intéressant effectivement comme interprétation. L'idée, c'était d'être vraiment sur quelque chose d'assez subtil, qu'on puisse aussi avoir un doute entre ce que l'on voit, qu'est-ce qui a été fabriqué, qu'est-ce que j'ai fabriqué, qu'est-ce que j'ai moulé, qu'est-ce qui est vraiment d'origine, qui a été fait par la nature et sur lequel j'ai pratiquement rien fait. Donc c'était de jouer aussi sur ce trouble en fait, entre parfois l'artiste a toujours envie d'imiter la nature et de d'emporter un petit morceau comme ça avec lui et de le proposer en fait en installation. Bon, on rivalise pas non plus, hein, la nature reste quand même bien plus belle, mais voilà, c'est un petit peu l'idée de cette salle là aussi, c'était de jouer sur de questionner ce qu'on voit en fait. On regarde pas toujours les choses, on finit par plus les voir, et là c'était de se questionner aussi sur ce qu'on voit.
Comment vous situez cette recherche dans votre travail d'artiste ?
Alors là, c'était une très belle opportunité parce que j'ai vraiment pu me concentrer que sur ce projet. J'ai pas du tout eu besoin de faire appel à un travail antérieur. J'ai vraiment voulu être dans la cohérence du lieu et il y avait beaucoup de matière en fait. Le fait d'avoir pu travailler sur différents sites. C'est une expérience, je pense, unique et voilà. Comme je pense que je vais effectivement avoir un peu la nostalgie parce que c'était des conditions idéales et j'ai eu un accompagnement incroyable de Julia. C'était un vrai binôme et voilà, c'est précieux.
Et bah, effectivement, c'est vrai, c'était vraiment une collaboration à toutes les étapes. Bon, en même temps, c'est un peu notre métier aussi, hein, de d'accompagner, de soutenir les artistes dans les moments de doute, dans les moments plus positifs. Voilà.
Je voulais juste... fais très bien.
Ah ben merci. Je voulais juste rebondir un petit peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, l'artiste, à la fois, elle puise, elle modifie, elle manipule ce qui est là, l'élément naturel. Mais ce que j'ai trouvé aussi intéressant, et c'est particulièrement vrai pour cette petite série de tableaux quasi abstraits, où en fait, l'artiste a mis, en quelque sorte, la nature en condition de créer. C'est-à-dire que sur des ardoises, qui ont une forme quasiment de feuilles A4, elle a laissé couler de l'eau calcaire, donc dans les jardins des fontaines pétrifiantes, et c'est cette eau qui a dessiné les formes qu'on voit aujourd'hui. Puis bon, dans la mise en espace, ça rappelle aussi des stalactites, des dégoulinements de l'eau. Mais voilà, je trouve intéressant aussi cette posture de Charlotte vis-à-vis de la nature. La nature, c'est quand même un peu au corps de ton travail. Et donc, à la fois être un être inspiré, à la fois la contraindre dans des formes qu'elle dessine, et, ou alors, comme c'est dans ces cas, qu'elle devienne une sorte d'assistante, en quelque sorte, qu'elle produise des œuvres pour Charlotte. Voilà, donc c'était juste un petit commentaire qui je trouve assez intéressant pour avoir une dimension supplémentaire de tout ce qui est présenté ici.
C'est vrai que c'est une pièce qui, à l'entrée en plus, qui a été importante parce qu'elle aux fontaines pétrifiantes, en fait, j'ai laissé pas mal d'objets pour voir ce que ça allait donner avec le temps, avec voilà, en expérimentant un petit peu sans savoir forcément ce que j'allais en faire au final. Et ça a été assez c'était une sorte de nuancier aussi de venir marquer ces ardoises. Donc l'équipe a gentiment tous les trois jours enlevé une ardoise pour venir aussi marquer le passage de l'eau et de voir sur deux mois effectivement d'avoir une sorte de dégradé de l'impression de l'eau qui travaille voilà progressivement, qui à force de passer au même endroit finit par faire un dépôt de plus en plus important.
Dans la première salle, on voit plusieurs projections vidéo sur les murs ou sur l'intervalle entre le mur et le plafond qui a été un petit peu restructuré pour l'occasion. Quelle place a l'image animée et quel type de création c'est ?
Alors là, c'est vraiment de garder le plus de traces possible de ces lieux donc, qui étaient incroyables. C'était une chance de pouvoir y travailler. La vidéo n'est pas forcément ce que j'exploite le plus dans le travail. C'est plutôt le son et puis le volume. Mais là, c'est vrai qu'on était tellement dans l'idée de garder une trace de l'eau que ce médium-là était plutôt bien pour venir reproduire aussi le passage. On a une vidéo par exemple où c'est dans un bassin et le niveau de l'eau baisse progressivement, Donc on voit presque la matière de l'eau en fait. Il y avait un peu cette idée de venir au plus proche de la goutte d'eau, de donner une matérialité à l'eau. Et donc ça vient aussi en résonance avec le plafond qui est donc une matière, une sorte de flocage qui est très présent. Et je voulais aussi rappeler un peu cette matière à travers les vidéos parce qu'on a des concrétions qui sont assez proches aussi de ce plafond, donc d'un calcaire presque au-dessus de notre tête. Donc j'ai aussi prolongé avec ces sortes de langues comme si le plafond dégoulinait, comme je disais quoi. Donc les vidéos viennent à la fois animer en fait ce plafond, presque donner une sorte de vie et jouer en fait sur l'illusion. C'est un peu des apparitions un peu fantomatiques, voilà, d'une goutte qui tombe, qui pourrait être presque réelle en fait, et qui est en condition, qui vient du dessus. Comme elle l'est dans la grotte. Voilà, c'est de faire rencontrer aussi différents paysages en fait, entre le territoire de la halle, parce que c'est presque un territoire. Enfin, moi, je le vois vraiment comme une grotte. La deuxième salle, on a un faux plancher qui a été posé, donc on a creusé à l'intérieur pour faire apparaître comme des stalagmites en fait. Une réflexion sur le moulage aussi, parce que j'ai fait beaucoup de moulage dans la grotte. Donc on a un côté négatif avec ces concrétions qui sont au sol. Donc voilà, on lève la tête, on la baisse. J'essaie vraiment de travailler sur l'espace de la halle pour le rendre un peu plus vivant.
Et dans la deuxième salle aussi, il y a un travail que j'ai trouvé très beau sur les lumières, comme si la lumière, en fait, sortait de la roche ou sortait de la pierre ou si la pierre apportait un éclairage.
Oui, c'est intéressant effectivement comme interprétation. L'idée c'était d'être vraiment sur quelque chose d'assez subtil, qu'on puisse aussi avoir un doute entre ce que l'on voit, qu'est-ce qui a été fabriqué, qu'est-ce que j'ai fabriqué, qu'est-ce que j'ai moulé, qu'est-ce qui est vraiment d'origine, qui a été fait par la nature et sur lequel j'ai pratiquement rien fait. Donc c'était de jouer aussi sur sur ce trouble en fait, entre voilà. Parfois, l'artiste a toujours envie d'imiter la nature et d'emporter un petit morceau comme ça avec lui et de le proposer en fait en installation. Bon, on rivalise pas non plus, hein, la nature reste quand même bien plus belle. Mais voilà, c'est un petit peu l'idée de cette salle-là aussi, c'était de jouer sur, de questionner ce qu'on voit en fait. Parfois, on regarde beaucoup, on regarde pas toujours les choses. On finit par plus les voir. Et là, c'était de se questionner aussi sur ce qu'on voit.
Comment vous situez cette recherche dans votre travail d'artiste ?
Alors là, c'était une très belle opportunité parce que j'ai vraiment pu me concentrer que sur ce projet. J'ai pas du tout eu besoin de faire appel à un travail antérieur. J'ai vraiment voulu être dans la cohérence du lieu et il y avait beaucoup de matière en fait. Le fait d'avoir pu travailler sur différents sites. C'est une expérience, je pense, unique et voilà. Je pense que je vais effectivement avoir un peu la nostalgie parce que c'était des conditions idéales et j'ai eu un accompagnement incroyable de Julia. C'était un vrai binôme et voilà, c'est précieux.
Et effectivement, c'est vrai, c'était vraiment une collaboration à toutes les étapes. Bon, en même temps, c'est un peu notre métier aussi, hein, de d'accompagner, de soutenir les artistes dans les moments de doute, dans les moments plus positifs.
Je voulais juste... Très bien.
Ah ben merci. Je voulais juste rebondir un petit peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, l'artiste, à la fois, elle puise, elle modifie, elle manipule ce qui est là, l'élément naturel. Mais ce que j'ai trouvé aussi intéressant, et c'est particulièrement vrai pour cette petite série de tableaux quasi abstraits, où en fait, l'artiste a mis, en quelque sorte, la nature en condition d'écrire. C'est-à-dire que sur des ardoises, on forme quasiment des feuilles A4. Elle a laissé couler l'eau calcaire, donc dans les jardins des fontaines pétrifiantes. Et c'est cette eau qui a dessiné les formes qu'on voit aujourd'hui. Puis bon, dans la mise en espace, ça rappelle aussi des stalactites, des dégoulinements de l'eau. Mais voilà, je trouve intéressant aussi cette posture de Charlotte vis-à-vis de la nature. La nature, c'est quand même un peu au corps de ton travail. Et donc, à la fois être un être inspiré, à la fois la contraindre dans des formes qu'elle dessine, ou alors, comme c'est dans ces cas, qu'elle devienne une sorte d'assistante, en quelque sorte, qu'elle produise des œuvres pour Charlotte. Voilà, donc c'était juste un petit commentaire qui je trouve assez intéressant pour avoir une dimension supplémentaire de tout ce qui est présenté ici.
C'est vrai que c'est une pièce qui, à l'entrée, en plus, qui a été importante parce qu'elle... Aux fontaines pétrifiantes, en fait, j'ai laissé pas mal d'objets pour voir ce que ça allait donner avec le temps, en expérimentant un petit peu, sans savoir forcément ce que j'allais en faire au final. Et ça a été assez... c'était une sorte de nuancier aussi de venir marquer ces ardoises. Donc l'équipe a gentiment, tous les trois jours, enlevé une ardoise pour venir aussi marquer le passage de l'eau. Et de voir sur 2 mois, effectivement, d'avoir une sorte de dégradé de l'impression de l'eau qui travaille progressivement, qui, à force de passer au même endroit, finit par faire un dépôt de plus en plus important.
Et je vais laisser Xaviera du Mémorial de l'Isère conclure.
Conclure, je ne sais pas. J'avais une question, et en fait, c'est une question que je me pose à chaque fois quand je viens ici pour couvrir donc les vernissages d'exposition. C'est qu'est-ce que l'artiste attend des visiteurs finalement quand, est-ce que vous attendez des retours immédiats? Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que vous avez envie qu'ils découvrent et qu'ils se posent comme question quand ils viennent voir vos œuvres?
C'est une bonne question.
Je pense que chaque artiste a sa réponse aussi. Ça dépend vraiment aussi des pratiques. Donc il y a des œuvres qui sont vraiment participatives et sont au cœur des démarches artistiques. Après, pour Charlotte,
moi, c'est de pouvoir faire vivre une expérience en fait singulière. Enfin, j'essaie en tout cas. Donc. D'ouvrir aussi le travail, d'essayer de faire partager un maximum ce qui, moi, m'émerveille à l'autre, et de pouvoir étonner, de pouvoir questionner, effectivement, sur ce qu'on regarde. Parfois, on ne regarde pas toujours bien les choses. On croit les voir et on ne les voit pas comme elles devraient. Voilà, on a aussi un champ de vision qui est limité en tant qu'humain, même pour le son. Donc moi, c'est des choses un peu parfois à la frontière de l'invisible ou de l'imperceptible qui m'intéressent. Et voilà, j'espère qu'il y a des choses qui peuvent se passer qui m'échappent aussi. En fait, c'est ça qui est aussi un peu émouvant pour moi, c'est qu'après tous ces mois de travail en commun avec Julia, on se rend compte que c'est très cohérent aussi, en fait, qu'il y a des choses qui se répondent et qu'il y a des formes qu'on retrouve comme une sorte de trace comme ça d'énergie qu'on a mis dans cette exposition, en fait, dans ce projet. Et c'est des petits cadeaux, donc j'espère que ça, les visiteurs peuvent aussi sentir qu'il y a cette charge d'énergie et d'implication. Et voilà, après, il se passe ce qui doit se passer. Le voyage est ouvert et j'espère qu'il y a un voyage et qu'il peut se passer et que ça peut donner envie de continuer à voir des œuvres et que voilà, l'art, c'est là encore le seul territoire, je pense, où on a cette grande liberté pour aller vers des choses qui sont ni rentables ni qui sont juste là parce qu'on en a besoin pour s'émerveiller, pour éveiller, pour être heureux d'être là aussi et d'avoir cette chance de vivre sur Terre et d'avoir des éléments autour de nous comme la nature qu'on oublie parfois, qui est importante, quoi.
Quelle est la durée du voyage, Julia? Il se termine quand?
Voilà, ce voyage-là en particulier, c'est jusqu'au 10 mars. Donc, vous avez encore 2 mois, pas mal de semaines pour venir les découvrir. Voilà.
Et au milieu de ces 2 mois, les vacances scolaires qui seront un excellent moment. Merci, Julia Torati.
Merci à vous.
Merci, Charles Charbonnel.
Merci beaucoup à vous.